Sogedanya siri bolola kaya la.
Uso kafu, kau wale nyomadon. Uso kafu, kau bonya dunya so. Muso utaze ya time wale nyomadon. Uso kafu, anifama bonya dunya so.
Bonjour à tous et à chacun, à toutes, à chacune, pour cette édition de rentrée des nouvelles d'ici et d'ailleurs. J'ai l'honneur et l'avantage, mais surtout plaisir, de recevoir Michel Pansard, évêque de Chartres, avec qui nous allons parler de l'Inde, où il est allé cet été dans le cadre d'un voyage d'immersion organisé par le CCF des Terres Solidaires. Alors, un voyage d'immersion, ce n'est évidemment pas une balade pour touristes, encore moins un raid sportif. Il s'agit avant tout de partir à la rencontre d'hommes et de femmes qui combattent pour le développement économique et social de leur pays et pour leur propre dignité, dans des conditions pas toujours faciles. Et c'est le cas des Dalits du Tamil Nadu, une région de l'Inde, que je vais vous demander de nous situer, Père Pansard.
Bonjour à tous. Le Tamil Nadu est donc un État de l'Inde. Vous savez que l'Inde est un État fédéral, chaque État ayant aussi son gouvernement, sa législation. Donc le Tamil Nadu est un état qui se trouve au sud-est de l'Inde, en gros pour vous faire Madras, actuellement Chennai, et puis au sud, pas loin de Pondichéry, pour ceux qui connaissent ce
ancien
petit comptoir, repère de notre histoire coloniale, et en face du Sri Lanka, à peu près pour vous donner un peu une situation géographique. Mais bien sûr, voilà, l'Inde est un continent, c'est un pays immense, et donc je n'ai vu, et avec ceux qui participaient à ce voyage, qu'une toute petite partie de l'Inde et de la partie immergée d'un iceberg.
Vous avez envie d'y retourner ?
Oui, c'est-à-dire comme tout voyage, c'est surtout dans un pays comme l'Inde où nous n'avons pas immédiatement nos repères culturels. Et donc c'est se rendre compte très vite que plein de choses nous échappent. Au moment même où on essaie de comprendre, plein de choses nous échappent parce que nous n'avons pas les clés, y compris les clés de la culture ou de l'histoire, qui permettent de comprendre la situation, en tous les cas une situation qu'on ne peut pas lire simplement avec nos lunettes d'occidentaux, de français, qui pensent que de toute façon leur point de vue est toujours le meilleur pour comprendre et analyser les situations.
C'est un début du voyage d'immersion, j'imagine, de déplacer le point de vue. Voyageurs, quoi.
Ouais, donc d'essayer de comprendre. Un voyage d'immersion du CCFD, c'est donc nous étions une douzaine, deux par diocèse de la province, plus des traductrices. L'objectif, c'est de rencontrer des partenaires habituels du CCFD là-bas, c'est-à-dire comment ces partenaires que le CCFD soutient travaillent, quelle est leur action, qu'est-ce qu'ils essayent de développer, comment les choses avancent un peu dans la durée. Et donc, c'est essayer de comprendre cela et donc forcément essayer d'entrer dans une histoire, dans la complexité de situations, y compris de combats, puisque nous avons essentiellement rencontré des associations et des populations, des associations qui travaillent avec et pour les Dalits, c'est-à-dire les populations dites des intouchables, donc qui sont vraiment considérés un peu comme les moins que rien, et comment ces associations travaillent à la fois à de l'éducation, à de la conscientisation, à une action aussi pour que les choses changent, sachant que c'est parfois un rapport de force qui est de David et de Goliath.
Alors, vous êtes parti de Chartres le lundi 6 juillet, vous êtes arrivé le 8 juillet à Chennai, en posant le pied sur le sol indien. Cette première impression, ça a été quoi? Il paraît que c'est très très chaud, évidemment, mais bon.
Il faisait chaud quand on a quitté Chartres, oui. Donc le différentiel de température était relativement faible. Par contre, la nuit, la température baissait peu, et ouais. Donc c'était ça le, le côté. Et puis voilà, Chennai, une petite ville, hein, enfin une ville de, on dirait en France, de province, de 12 ou 13 millions d'habitants. Donc vous voyez, pour donner un peu le chiffre, tout de suite se retrouver dans un univers voilà, grouillant, hein, c'est-à-dire hein, d'une ville où voilà, ça bouge en, dans tous les sens.
L'Inde est essentiellement populeuse, quoi, c'est ça le... M'a-t-on dit hein,
dans les grandes villes, bien sûr, et puis après dans les campagnes. Voilà, nous avons eu une alternance de rencontres dans des villes et puis dans les campagnes, avec en particulier toute la question de l'accès à la terre hein, pour les populations intouchables.
Alors vous avez rencontré des associations, il y a Ared et l'association Jano Dayam qui travaille dans les bidonvilles de Chennal, auprès des Adi. André, est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots de cette association, Jano Dayam?
Voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails des noms des associations chacun, parce que les uns et les autres seront vite perdus. C'est un travail ici. Voilà. Il faut d'abord comprendre, hein, une des choses qui m'a le plus frappé, c'est à quel point le système des castes hein, en Inde est encore un système très, très prégnant hein, dans les mentalités, dans l'organisation sociale, dans les rapports humains et entre groupes. Et donc, voilà, c'est... Et que pour y toucher, pour y travailler, pour que les choses bougent, il faut du temps, de l'énergie, il faut aussi des, hein, avoir une volonté et de la patience hein, pour que le travail initié fasse petit à petit bouger les choses et en même temps entraîner hein, les populations dans la participation à ce propre changement. Caractéristique hein, de ces intouchables, ben c'est souvent ils exercent des métiers qui ne sont pas faits par les autres, hein, puisque les intouchables sont considérés comme impurs. Alors on va, les métiers qu'ils vont exercer vont être considérés aussi et puis impurs. Et donc là, toute une part de cette population, leur travail, c'est de travailler dans le nettoyage. Hein. Alors nettoyage, ça n'a rien à voir avec nos sociétés de nettoyage. C'est aussi bien... en particulier, c'est tout ce qui touche aux égouts, hein, des égouts à ciel ouvert ou des égouts à moitié enterrés. Et quand il faut intervenir, ça se fait à main nue. Ça se fait avec juste un pagne, hein, y compris quand il faut descendre dans des égouts. Vous imaginez un peu, y compris... donc voilà, on a rencontré des associations qui travaillent, des associations de travailleurs hein, qui travaillent justement... À faire reconnaître à la fois le travail, la dignité des personnes qui travaillent, y compris pour que des mesures de sécurité et d'hygiène soient développées, pour qu'il y ait des salaires qui soient aussi meilleurs, de façon à permettre de, hein, à des familles de vivre. Donc voilà, c'était voilà cette situation. Alors à chaque fois, nous avons rencontré des associations donc qui nous parlaient un peu de leur travail, de conscientisation, d'éducation, d'action, et que ça soit dans le champ associatif ou dans le champ politique, voilà. Et puis les défis. Puis ensuite, nous allions sur le terrain et nous rencontrons dans un bidonville ou dans hein, et là rencontrant les personnes, voyant sur place un peu voilà le type d'initiative ou de réalisation que faisait l'association.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le système des castes? Parce qu'il y a les Dalits, donc les intouchables, et puis après, il y a les Brahmanes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est totalement figé? Ou est-ce qu'on peut, bah, je ne sais pas moi, devenir, de passer à la caste supérieure? Ou c'est définitivement figé? Vous êtes né dans une famille d'intouchables, vous le restez toute votre vie.
En gros, pour comprendre quelques mots sur le système, c'est un peu comme les doigts d'une main. Dans une main, vous avez quatre doigts qui sont assez proches les uns des autres. Et puis, il y en a un, le pouce, qui est ailleurs. Hein, et donc, vous avez quatre doigts dressés vers le haut et proches. Et puis, le pouce qui est situé autrement. Bien, dans le système des castes, vous avez la tête. Hein, si on prend le corps humain, vous avez la tête, c'est les prêtres, les brahmanes. Vous avez les épaules, les rois... et ceux qui exercent des responsabilités, vous avez les bras, les commerçants, les hein, voilà. Et puis voilà, mais c'est hiérarchisé et c'est lié. C'est hein. Et puis en dehors de ce système de caste. Vous avez les intouchables, dont les métiers, hein, dont c'est les impurs, qui sont considérés comme impurs et donc sans droit, hein, pratiquement pour un certain nombre, ça veut dire qu'on n'a pas de droit. Et les intouchables étant eux-mêmes subdivisés en plusieurs groupes, ce n'est pas un groupe non plus totalement uni. Donc voilà, c'est déjà essayer de comprendre, il faut du temps, y compris, je suis trop rapide hein, dans l'explication, mais on ne passe pas d'une caste à une autre, y compris la plupart du temps, hein, les mariages sont à l'intérieur d'une caste. Ouais. Hein, et de temps en temps, d'ailleurs, on entend dans l'actualité le fait que telle personne qui a épousé ou qui a voulu épouser quelqu'un d'une autre caste, il y a des réactions, y compris violentes, y compris parfois qui vont jusqu'au meurtre à l'égard... De ces personnes.
Mais il y a quand même des mariages, si j'ose dire, mixtes, ça arrive quand même de temps en temps à Londres. Il y a des gens qui bravent l'interdit fondamental.
Ça arrive. De toute façon, hein, ce que l'on peut espérer, c'est que avec le développement de l'éducation et une grande part de l'action de ces associations, c'est justement de pousser à l'éducation des jeunes générations. Hein, et on sait que beaucoup de choses ont bougé dans l'histoire et donc continueront à bouger dans l'histoire grâce à l'accès à l'éducation, à la connaissance de l'histoire, à la connaissance des droits, à la connaissance des lois hein, qui permettent de connaître à la fois une histoire, les droits, et donc qui permettent aussi de les revendiquer quand on ne les connaît pas. Quand on ne connaît pas l'histoire, quand on n'est pas... comment voulez-vous ? Et c'est souvent, les gens sont souvent maintenus dans une situation. Travailler à l'éducation, c'est ouvrir hein, des champs de possibles à des transformations sociales, ce qui ne se feront pas toutes seules, hein, qui ne se feront pas sans des hommes et des femmes qui s'y mettent. Une chose qui m'a le plus frappé, y compris dans le travail de ces associations, c'est à quel point elles s'appuyaient sur les femmes. Comme d'ailleurs dans beaucoup de pays en voie de développement, hein, pour faire bouger des choses au niveau de l'éducation, pour faire bouger des choses au niveau de la prise en compte de droits, pour que les choses s'inscrivent un peu dans la durée au niveau même des familles. Miser sur les femmes, sur leur capacité à se battre et à tenir hein, dans des dispositions et dans des attitudes, y compris pour le bien de leurs enfants et l'avenir de leurs enfants et pas simplement le leur. Y compris, nous avons découvert qu'un des défis, parfois une des difficultés, hein, y compris pour ces populations d'élite dont vous voyez la situation sociale est difficile, il y a un des fléaux est aussi l'alcool, hein, y compris chez les hommes. Hein, et donc... c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces associations s'appuient sur les femmes en jouant sur justement la fibre, je pense, à la fois féminine, maternelle, y compris de se battre pour l'avenir de leurs enfants.
Il y a un système patriarcal ou...
C'est compliqué. C'est un pays avec une forte tradition démocratique hein, qui lui vient de l'occupation anglaise, c'est plein aussi de fonctionnement traditionnel avec des assemblées de villages. Hein, donc il y a tous ces fonctionnements. Il faut du temps pour comprendre hein, ces fonctionnements, mais beaucoup de choses au niveau d'un village se décident, se jouent au niveau de l'assemblée villageoise. Alors il y a des assemblées élues, il y a dans d'autres c'est plutôt des assemblées est traditionnel, mais c'est là que se règlent un certain nombre d'affaires concernant le village et pour la vie ensemble. Mais on y retrouve justement les tensions, le système des castes et des chantiers importants ou des combats importants, c'est y compris pour que les intouchables soient aussi partie prenante de ces assemblées et n'en soient pas exclus, puisque de toute façon... intouchable.
Ouais. Quel sentiment les Dalits ont-ils d'eux-mêmes ? Est-ce qu'ils se disent, de toute façon, c'est comme ça ? Ou je vois bien, là, en vous écoutant, qu'il y a quand même une envie d'en découdre un peu avec l'injustice.
Vous voyez, nous parlons de milliers de personnes. Donc, vous voyez, il y a forcément une diversité de situations. Le travail de ces associations, c'est justement de ne pas être simplement, de ne pas subir les choses et voilà, c'est comme ça et ça ne changera pas, mais de, voilà, de croire et d'agir hein, en pensant que quelque chose peut changer. Mais ça ne changera pas sans information, sans éducation, sans combat. Hein. Ce qui m'a frappé aussi, c'est justement la capacité hein, de, pour un certain nombre de ces acteurs de se battre, hein, en particulier pour leurs droits, pour, et leur volonté aussi de se situer dans la légalité, c'est-à-dire hein, de récupérer leurs droits, en particulier leurs droits à la terre qui avaient été donnés par... les Anglais aux Dalits, mais qui ont été pris par d'autres ou qui ont été accaparés par d'autres, même si quand on dit se battre pour la terre ou l'accès à la terre, c'est se battre pour avoir un demi-hectare, y compris pour pouvoir y construire une maison et cultiver, hein, puisque la plupart... donc en ville, hein, ils travaillent dans parmi ces métiers qui nettoient les toilettes, les égouts, les hein, et puis en campagne, pour la plupart, ce sont des travailleurs sans terre, hein, donc des travailleurs agricoles qui gagnent, voilà, pour donner. Hein, là, au moment où nous étions, c'était encore la saison sèche, ils attendaient la pluie, donc il n'y avait pas beaucoup de travail dans les champs. La plupart des femmes que nous avons rencontrées travaillaient 3-4 jours par semaine pour 60 roupies par jour, c'est-à-dire moins d'un euro.
Moins d'un euro par jour.
Par jour. Alors, ouais. Même si le coût de la vie n'est pas identique, c'est quand même pas beaucoup, y compris par rapport au coût de... pour vous dire, par exemple, un petit café au lait comme ça sur le bord du trottoir valait 10 roupies. Donc, vous voyez, ça fait 10 petits cafés. Hein.
On boit beaucoup de thé au lait, je crois, là-bas.
Du thé ou du café au lait, oui. Sucré.
On écoute un peu de musique et on se retrouve dans une ou deux minutes. Voilà, on vient d'écouter un peu de musique indienne pour rester dans l'ambiance. Je vous rappelle que je reçois aujourd'hui Michel Poinsard, évêque de Chartres, au sujet du voyage d'immersion qu'il a effectué avec des gens du CCFD, Terre Solidaire de l'archidiocèse. C'était cet été, un grand voyage. Vous avez beaucoup bougé, vous avez beaucoup roulé, vous avez beaucoup rencontré de personnes.
Oui.
Et vous avez rencontré aussi, j'aimerais connaître votre sentiment sur les communautés chrétiennes de l'Inde.
Donc on a rencontré des communautés chrétiennes, des catholiques indiens, un évêque, on a participé à des célébrations là-bas. La plupart des catholiques au Tamil Nadu hein, sont aussi des Dalits. Hein. En gros, 80% hein, des catholiques sont Dalits, des intouchables. C'est vrai aussi, une part importante de ces Dalits aussi sont musulmans. Voilà, pour donner aussi quelque chose un peu... Quand un hindou devient catholique ou musulman et qu'il est intouchable, il perd des droits. Compris que, voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est d'une certaine manière un prix à payer. Ce qui m'a frappé, y compris dans la rencontre des personnes et des communautés, c'est qu'au sein même de la communauté catholique, le système des castes est encore très, très prégnant, ce qui montre hein, que voilà, hein, l'évangile, avant que l'évangile soit plus fort que des éléments culturels qui ont modelé des mentalités pendant des siècles, il faut, hein, il faut du temps, il faut une force, hein, pour le travailler. Pour vous donner un exemple, par exemple, des catholiques intouchables ne sont pas enterrés dans le même cimetière que des catholiques non intouchables. Hein, donc voilà, ça montre, hein, y compris, ils n'ont pas les mêmes places. C'est relativement récemment qu'il y a des prêtres dalit. Nous avons rencontré deux des trois des évêques dalit de l'ensemble de la conférence épiscopale indienne. Donc voilà. Mais en même temps, hein, des hommes y travaillent. Nous avons rencontré un jésuite, hein, qui était avocat et qui travaille, hein, beaucoup sur le droit des dalits, hein, y compris dans chaque diocèse, hein, il y a une commission, hein, y compris autour du droit des dalits, puisqu'il en va de la dignité, hein, des personnes. En même temps, la législation indienne, hein, qui est une législation complexe, a développé depuis quelque temps un système de discrimination positive, hein, qui dit, ben voilà, il doit y avoir un pourcentage d'intouchables à l'université, etc. Donc, pour ouvrir, hein, l'accès à l'éducation, à des études, dont on peut penser, voilà, que à force, des choses vont bouger, mais il faut, hein, ça demande qu'il y ait des acteurs qui y croient, qui demandent et qui n'aient pas peur de réclamer ses droits, y compris avec tout un système de pétitions, d'actions auprès des représentants.
Est-ce qu'il y a de la répression par rapport à ces mouvements justement de libération, de développement? Est-ce que, voilà, il arrive que l'État mette son grain de sel et se dise, bon, il commence à nous embêter un peu, ces gens-là, et on les jette en prison, ça arrive, ça?
Bien sûr, ça arrive, hein, comme ça arrive en particulier parce que un changement du gouvernement peut amener à des changements d'action ou même de législation, ou à revenir sur tel ou tel droit qui avait été accordé, et puis parce que autour de, en particulier de la question des terres, et donc de l'accès à la terre ou de la récupération des terres, un certain nombre d'associations poussent à des mouvements d'occupation de terres qui appartiennent aux intouchables, mais auxquels ils n'ont pas accès, et donc forcément cela entraîne à la fois, ils travaillent beaucoup avec des pétitions pour se faire entendre, hein, et à force et en manifestant, qui fait qu'à certains moments les officiels réagissent, mais quand ça ne débouche pas, à certains moments ils engagent aussi des actions d'occupation des terres, et vous imaginez qu'une action d'occupation des terres la plupart du temps ne se vit pas sans que ceux à qui ces terres appartiennent illégalement, sans que cela réagisse.
Alors, le christianisme a cette faculté de s'inculturer, où qu'il soit. Le christianisme du Tamil Nadu ressemble à quoi? Par exemple, dans les célébrations, c'est très différent
Eh bien, ça ressemble, aux messes que nous pouvons vivre, par exemple, dans le diocèse de Chartres, avec les Tamouls.
D'accord. Hein,
puisque le Tamil Nadu, la langue, c'est le Tamoul, hein, et donc tous les ans, il y a un pèlerinage tamoul, non pas indien, mais pour la plupart du Sri Lanka, mais c'est cette langue, hein, et donc la liturgie se déroule en tamoul, les chansons en tamoul. À la fois, le catholique que je suis n'est pas perdu, parce qu'il s'y retrouve, même si je ne comprends rien, je ne comprends pas, je suis incapable de traduire le tamoul, mais je n'étais pas perdu dans une célébration, je savais très bien à quel endroit on était, parce que c'est le rite s'est développé, même si avec des rites d'accueil, en particulier en me remettant un grand collier de fleurs, en me faisant faire tel ou tel geste d'offrande. Mais j'ai fait ça aussi à la cathédrale de Chartres.
Je me suis permis de visiter le blog de Terre Solidaire. Donc il y avait de très jolies photos, notamment des photos d'églises. Et ce qui m'a frappé, c'est le côté pimpant de ces églises. Elles sont belles, elles sont fraîches, elles sont bien entretenues.
Oui.
On dirait qu'elles viennent de sortir de terre.
C'est il n'y a pas d'église aussi ancienne que la cathédrale de Chartres, même si il y a quelques églises qui remontent à la colonisation portugaise, par exemple. Hein, donc, mais donc la plupart des églises sont des constructions relativement récentes, et donc avec des dégoûts en couleur, en aménagement, qui ne ressemblent pas à nos goûts occidentaux. Mais voilà, chaque culture s'exprime. Et puis, c'est assez... À certains moments, c'est assez flashy. Mais on retrouvait...
C'est très Bollywood.
On retrouvait des jeux de couleurs un peu similaires. Quand on visitait, une fois ou l'autre, on a visité un temple... hindou, on retrouvait, en tous les cas, l'Inde est un pays religieux, dans son fond, le religieux n'étant pas un opium, comment, y compris pour les chrétiens, comment leur foi, leur prière, etc., va aussi soutenir un engagement pour que des hommes et des femmes, des frères en humanité, aient des conditions de vie dignes. Moi, ce qui m'a frappé le plus en rencontrant des jeunes, surtout, parce que c'est intéressant, on a eu l'occasion à certains moments de rencontrer des jeunes adultes, de voir un peu comment, à la fois, sur quoi ils réagissaient, sur le mariage des enfants. Et donc, il y a tout un travail aussi pour sortir de ces systèmes de mariage d'enfants pour que les mariages se fassent entre adultes, pour que la part personnelle des mariés soit davantage honorée, que ce ne soit pas simplement décidé par d'autres, pour sortir du système de dot, qui est un système un peu pervers, y compris qu'à certains moments... pour que ça soit quelque chose de plus, beaucoup plus léger. Beaucoup de jeunes, étant en université, donc envisageant un type de métier, y compris d'aller travailler à l'étranger, en Thaïlande, dans un certain nombre de pays d'Asie. Et en même temps, quand on posait des questions plus sur... sur la vie familiale, sur la vie. Est-ce que le mariage, ça pourrait se faire avec quelqu'un d'une autre caste? Non.
C'est pas possible. Mais
avant de dire c'est pas encore, etc., c'est. Le risque toujours, c'est. Quand même.
Oui,
quoi. Essayons de comprendre les avancées, le chemin qui est fait ici. Les jeunes filles que nous avons rencontrées aussi étaient très opposées à toute une réalité qui existe, qui est l'avortement. L'avortement en particulier en raison du sexe de l'enfant.
Pas de filles.
Oui, parce que, heureusement qu'il y a des filles, mais il y a un certain nombre d'avortements qui sont liés au sexe des enfants, au fait que c'est une fille, justement à cause du système de dot, etc. Et donc, c'est intéressant aussi de voir la réflexion qu'elle mène, y compris sur le regard sur une réalité qui marque leur pays, qui marque la vie de leurs contemporains, et en même temps, comment elles n'étaient pas simplement soumises à cette réalité, mais que dans cette réalité, elles avaient envie que des choses bougent.
Oui, elles ont envie d'être actrices de leur propre vie, bien sûr. Michel Poisson, on vous écouterait pendant des heures à nous parler de ce pays fabuleux qu'est que l'Inde. On arrive au terme de cette émission. Je vais vous dire au revoir. Comment on dit au revoir en hindi?
Je ne sais plus. J'ai déjà oublié.
J'ai vu qu'on joignait les mains. J'ai vu une très jolie photo sur laquelle vous joignez tous les mains à la manière indienne. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais on va quand même leur adresser un salut indien. Merci beaucoup.
Merci, bonne fin de journée.
Et merci à Simon à la technique. À très bientôt.